Bonjour la Terre au carré. Les locaux de France Nature Environnement Haute-Savoie ont subi une attaque avec 10 tonnes de lisier projetées sur nos locaux et sur ceux de nos voisins. Cette attaque est la deuxième en 6 mois par des agriculteurs et fait suite à notre victoire récente en justice pour stopper la destruction de 170 bouquetins du massif du Bargy de façon indiscriminée. Alors que 95% de ces bouquetins ne sont pas porteurs de la brucellose et sont actuellement sains. Le tribunal a jugé que la décision d'abattre tous ces bouquetins sans vérifier s'ils étaient porteurs de la maladie ne respectait pas la loi concernant les espèces protégées. Alors aujourd'hui, FNE Haute-Savoie est devenue une cible facile, un bouc émissaire pour certains agriculteurs qui font face à une situation que nous savons inquiétante pour eux, mais qui doit vraiment trouver sa résolution sous la responsabilité de l'État français, guidé par les avis scientifiques. Les tentatives d'intimidation par le monde agricole ne nous feront pas dévier de notre engagement en faveur du vivant et d'une cohabitation apaisée entre les activités pastorales et la faune sauvage. Merci.
Ah ben, je suis étonnée que Isabelle Autissier ait confondu la Méditerranée, qui entoure Venise, avec ses océans habituels. La lagune communique avec la mer, pas avec les océans.
Monique de La Rochelle. Moi, je trouve que c'est beau, les éoliennes. J'aime voir tourner leurs grandes palmes. Les moulins à vent nous semblent pittoresques. Les éoliennes le deviendront aussi, le temps qu'on s'y habitue. Mais et le problème, c'est le bruit qu'elles font. Peut-on y remédier? Au revoir et merci.
Bonjour la Terre au carré. C'est Sandrine de Murinet, un petit village à côté de Saint-Marcellin. Je vous appelle parce qu'il y a 2 ans, nous avons décidé, ma famille et moi, d'arrêter d'être dans le déni et nous avons changé de vie. Ça prend du temps, on a trouvé une maison et avec vous, je m'apprête à déguster ma première fraise issue de mon potager. Je la mange en direct. Ça a un goût merveilleux. Ça a le goût de l'action, ça a le goût du bonheur et ça a le goût du futur. Donc je voulais vous remercier parce que ça fait 2 ans que vous m'accompagnez tous les après-midi dans mon changement de vie. Donc merci à vous et longue vie.
Merci Sandrine pour cette dégustation de fraises en direct sur le répondeur. C'est une première en tout cas, ça nous fait très plaisir. On est très heureux de vous accompagner tous les jours dans votre nouvelle vie et on vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. 01 56 40 45 45, le numéro de la Terre au carré. Si comme Sandrine, vous avez envie de nous faire entendre vos fraises. L'humanité, un buisson que l'on connaît actuellement de mieux en mieux avec une trentaine d'espèces humaines qui ont peuplé le passé depuis le berceau africain jusqu'aux habitants isolés des îles de l'Asie du Sud-Est. Et les découvertes ces dernières décennies ont été d'une richesse inouïe. De tout Maya Flores, en passant par les Denisoviens, le travail des paléoanthropologues est donc de travailler sur les fossiles pour extraire les secrets de restes inconnus et compléter donc l'histoire de nos ancêtres. Le chercheur Antoine Balzo a été au cours de sa carrière le témoin de plusieurs de ces découvertes et il publie une brève histoire des origines de l'humanité. Il vient nous en parler cet après-midi dans la Terre au carré. Antoine Balzo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc paléoanthropologue au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes spécialiste du cerveau humain. Et dans votre ouvrage, vous faites le point justement sur le mode de vie, le comportement, l'anatomie de nos cousins préhistoriques pour nous permettre de comprendre évidemment ce qui constitue notre humanité. On va donc se retrouver dans un instant. Vous allez répondre aux questions de nos auditeurs qui souhaitent également savoir plus sur ce buisson dont vous parlez. Les messages arrivent sur la page de la Terre au carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter pour vous entendre. Vous pouvez également enregistrer vos messages. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30. Que va-t-il se passer?
Deux nouvelles ministres pour l'écologie et l'énergie. Eh ben, on va faire les présentations.
On a hâte. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Anna Massardi avec aujourd'hui à la technique Élise Christophe.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Allez, allez, dépêchez-vous. Je dois vous rendre vos copies de Préhistoire Géo. Cynthia, tu me retires cet os dans le nez maintenant. Combien de fois devrais-je te le répéter? Pas de piercing en classe. Mathis, tu enlèves cette casquette, s'il te plaît.
Eh, hey, mais madame, c'est mes arcades sourcilières.
Oui. Bref, allez, on sort ces affaires maintenant. Oh! Mince! Oh non, c'est pas possible!
Madame, madame!
Vous faites un exposé sur les invertébrés!
Attends, maman, tu es rentrée du collège à quatre pattes?
Bonjour, l'exemple pour les élèves. Depuis le CM2, on essaye de leur inculquer la station debout, et toi, en 3 minutes, tu ruines 5 années de bipédie.
Oui, ben pardon, papa, mais t'aurais pu l'aider.
Bon, en tout cas, il faut te débloquer, hein. Tu peux pas rester comme ça. On va te prendre rendez-vous à la clinique Saint-Erectus. Les chirurgiens ont une très bonne réputation là-bas.
Voilà, c'est Silex and the City et Jules, évidemment, Antoine Balzo, pour introduire donc notre discussion. Vous qui êtes notre invité avec cette brève histoire des origines de l'humanité qui paraît chez Talendier avec une préface signée Yves Coppens. Alors, vous dites finalement dans l'introduction de votre livre qu'on n'en a jamais autant su finalement concernant l'évolution humaine avec des découvertes, hein, c'est vrai, qui se sont multipliées ces dernières décennies. Qu'est-ce qui explique d'ailleurs qu'on ait trouvé autant de choses importantes ces dernières années? Est-ce que c'est la façon de fouiller qui a évolué? Est-ce qu'on a de nouvelles techniques? Comment vous expliquez ça, vous?
Alors, il y a plusieurs aspects. C'est vrai qu'en termes de quantité de connaissances, on a bien progressé parce qu'on fouille beaucoup, on cherche beaucoup.
Ouais.
Après, l'impact de ces découvertes est peut-être aussi d'un ordre différent. Finalement, la recherche d'il y a 150 ans révolutionnait vraiment l'état des connaissances, chamboulait même la société. Aujourd'hui, on continue à multiplier nos connaissances. Ça peut être moins d'impact, à part que ça permet vraiment de mieux connaître le détail de notre passé. Et ce qui nous permet d'en arriver là, de travailler de mieux en mieux, d'avoir de plus en plus de données, c'est à la fois quelque chose qui devient plus mondial. Les différents pays maintenant se dotent de laboratoires, de professionnels,
donc, il y a plus de monde,
archéologues, paléontologues.
Sur le
voilà, c'est ça exactement, c'est extrêmement important. La Chine s'est largement ouverte, ils ont des laboratoires, ils font des fouilles toute l'année, ils travaillent avec nous, donc forcément l'impact est très important.
Mais
pour la quantité de découvertes.
Est-ce qu'un paléoanthropologue aujourd'hui, il fouille tellement différemment d'un paléoanthropologue d'il y a un siècle par exemple?
Certainement, mais ça c'est une évolution des techniques. Probablement on fouille avec beaucoup plus de minutie, ou en tout cas on enregistre beaucoup plus d'informations parce qu'on va pouvoir les exploiter dans le détail.
Mmh.
Auparavant, il y a 150 ans, on fouillait rapidement, on prélevait et on conservait surtout ce qui nous intéressait. Là, potentiellement, tout va pouvoir nous intéresser. On peut trouver de l'ADN dans les sédiments, le moindre micro-bout d'os va pouvoir être analysé avec la protéomique et on va pouvoir comme ça analyser tout un ensemble d'informations dans un site. Ouais.
Et quand on fait votre métier, est-ce qu'on fouille aussi beaucoup dans les tiroirs des muséums, par exemple? Parce qu'on y trouve aussi des choses hyper intéressantes. Hein,
et ben exactement, c'est aussi
intéressant. Avec des fossiles qui ont été relégués finalement.
Et ben c'est le contraste qu'il y a entre les fouilles plus anciennes, où en effet on prélevait peut-être une partie des choses, mais on n'avait pas les moyens de les analyser. Et puis ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'aller rechercher ces anciennes collections et de les réexploiter pour trouver des fossiles. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'en France, on a tellement de sites archéologiques qui sont fouillés depuis tellement longtemps, qu'il y a un potentiel énorme dans les musées, et que finalement, ces derniers temps, on a presque trouvé plus de fossiles dans les musées que sur le terrain en
France.
C'est ça.
Ouais. Et vous êtes assez nombreux pour essayer d'en tirer quelque chose ou pas?
C'est une bonne question. On pourrait toujours être plus. On a la chance en France d'avoir eu un modèle de construction de la recherche scientifique qui a été très positif pour des disciplines comme la nôtre. Ce serait difficile de comparer entre pays, la puissance, la quantité de publi et tout sont des critères qui sont forcément pas très objectifs. Néanmoins, en termes de recherche archéologique, la France est parmi les meilleurs au monde et les plus présents au monde, et c'est en grande partie lié au modèle de la recherche française, à la présence du CNRS, au fait qu'on finance des disciplines qui sont moins bénéfiques à court terme, et ça c'est vraiment une originalité française qu'il ne faudrait pas oublier. C'était un peu là où je voulais en venir.
Laissons du temps aux
chercheurs. Continuons à travailler comme ça de manière globale sur toutes les disciplines
et
scientifiques.
Et vous, Antoine Balzo, c'est quoi la découverte qui vous a le plus marqué à titre personnel, enfin dans votre carrière en tout cas de chercheur?
Découverte des autres qui ont vraiment eu un impact sur nos réflexions.
Non, la vôtre.
Alors j'aurais dit Toumaï ou l'homme de Flores.
Ouais. Vous, c'est plus Néandertal quand même, non?
La mienne, moi, c'est en fait plus anecdotique. Le moment où j'ai eu le sentiment le plus important de trouver quelque chose qui avait un petit impact ou surtout une vraie reconnaissance, c'est justement dans des collections à Saint-Germain, quand on a retrouvé une 50aine d'ossements d'un enfant néandertalien qui avait été raté pendant des fouilles dans les années 70. Le fouilleur à l'époque avait tout prélevé et mis dans un sachet. Et on a eu la chance, par un faisceau d'informations, de circonstances, d'être là au bon moment, d'ouvrir le sachet, de retrouver le cou et la base du crâne d'un enfant néandertalien.
Alors,
c'est un bon moment.
Ce que je trouve très bien, justement, dans votre brève histoire des origines de l'humanité, c'est que vous imitez aussi de la chair, hein, de l'humain et de l'émotion, parce que vous dites, justement, il y a vraiment des moments où, en tant que chercheur, on a un grand frisson qui vous traverse le corps quand on découvre, par exemple, ce type de fossile.
Ça, c'était vraiment un très bon exemple de moment un peu particulier hors du temps, parce que se trouver nez à nez les fossiles humains, c'est toujours un moment extraordinaire de les regarder, de pouvoir les approcher, les étudier. C'est exceptionnel, c'est extrêmement rare. C'est aussi rare qu'une œuvre majeure, en fait. Des crânes néandertaliens, on en a quelques dizaines, donc c'est exceptionnel. Mais en plus, quand il s'agit de quelque chose de nouveau, qu'on a soi-même découvert, évidemment par chance, hein, parce qu'on n'est pas l'inventeur d'un fossile, on le trouve par hasard, mais il y a un frisson en plus, un petit moment d'exceptionnel.
Mais à quel moment on comprend qu'on a découvert quelque chose d'exceptionnel, justement, en regardant un fossile ? Est-ce qu'on le sait tout de suite, ou est-ce qu'il faut quand même beaucoup d'analyse ?
C'est variable, ça dépend aussi de la préservation et de ce qu'on trouve, évidemment, mais en général, on a quand même un peu l'œil, surtout sur les choses qu'on recherche, nous, spécifiquement. Donc, assez vite, on peut être capable de reconnaître un petit bout qui dépasse d'un sachet ou de la terre, et tout de suite, on essaye de s'aiguiser, de faire très attention.
Antoine Balzossi, il y a finalement quelque chose qu'on doit retenir de votre livre, c'est que l'évolution humaine, c'est un grand buisson. Si déjà on a retenu ça... C'est pas si mal, non ?
Ça, et puis j'espère aussi comprendre comment marche la recherche scientifique et ce que ça peut apporter à notre compréhension du monde. C'est quelque chose d'important. Et en effet, l'évolution humaine, c'est un des changements majeurs qu'on a eu. On est passé de cette idée de succession des espèces humaines et de direction de l'évolution et de ce terme de lignée humaine vers une observation de quelque chose d'extrêmement buissonnant, avec des adaptations multiples, des formes humaines différentes et des humains contemporains parfois, une époque récente même pour notre espèce. Mais avec des adaptations différentes, mais des capacités équivalentes aussi.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par buissonnant ? C'est quoi ? C'est que c'est une forme de pagaille un peu, plutôt que la lignée vraiment très structurée, très propre. Il y a une forme de bordel, pardon pour le terme, mais un peu comme ça ?
Il y a un puzzle magnifique dont on n'a qu'une petite partie de l'image à reconstituer. En fait, cette partie de buisson, c'est plutôt l'idée que au lieu d'avoir cette succession dans le temps qu'on avait auparavant, cette impression que les Australopithèques précédaient Homo habilis, qui précédaient Homo erectus, qui précédaient Homo sapiens, là on a des objets qui nous montrent qu'il y a une diversification humaine à toutes les époques et qu'à certains moments il y a 2, 3, 5, peut-être 10 espèces humaines contemporaines.
Ensemble.
Sur Terre. Alors, pas forcément au même endroit.
Il y a plein d'interactions en réalité.
D'interactions possibles et puis aussi de diversification. Pour les périodes anciennes, les Australopithèques étaient dans différentes zones d'Afrique, différentes régions. Pour les périodes plus récentes avec Homo sapiens, c'est l'ensemble de l'ancien monde qui était partagé entre 3-4 espèces humaines différentes et qui là en effet devaient se croiser, cohabiter et avaient des interactions. Donc c'est vrai que ça fait aussi réfléchir à la manière dont on perçoit le monde ou à la manière dont on se partage le monde aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des conditions qui permettent justement de mieux trouver des fossiles importants et ou au contraire est-ce que c'est vraiment une chance, le hasard, mis à part les sites qu'on connaît bien et qui peuvent justement en mettre au jour, mais...
C'est toujours une chance de trouver un fossile, parce qu'il faut bien imaginer que parmi tous les êtres vivants qui habitent à un moment donné la planète, seul un tout petit nombre va se conserver. Il faut qu'il y ait un enfouissement rapide, que ce soit préservé, que le niveau soit pas détruit, puis qu'il affleure, qu'on fouille dedans, qu'on trouve quelque chose. Donc c'est déjà à chaque fois gagné au loto quand on trouve quelque chose. Mais il y a forcément des conditions un peu différentes. Dans des environnements un peu plus froids et plus protégés, la conservation peut être un peu meilleure, et en particulier des protéines ou de l'ADN, grâce au froid. La tour peut être exceptionnelle. Le permafrost, malheureusement, auquel on accède de plus en plus, peut nous laisser rêver aussi, trouver des choses extrêmement bien conservées.
Mais vous dites qu'il y a des chercheurs qui cherchent sans jamais rien trouver. Enfin, c'est quand même quelque chose aussi qui fait partie de votre métier. Des
chercheurs frustrés.
Ah ouais, c'est alors, terrible, non ?
Oui, mais ça fait partie du jeu, du travail, parce que nos recherches se font en effet dans cette idée d'aller sur le terrain dans l'espoir de trouver quelque chose. En général, on vise un niveau où on sait qu'il y a un potentiel. Il y a des fossiles et c'est une époque qui nous intéresse, donc on peut trouver des choses. Et puis quand on fouille des sites archéologiques avec des zones de vie, on finit toujours par trouver des choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas toujours trouver un reste humain. Ça reste exceptionnel. Mais finalement, c'est le quotidien de tous les chercheurs. La plupart du temps, on fait de la recherche et finalement, on n'aboutit à aucun résultat scientifique parce qu'on ne gagne pas tous les coups quand on fait de la recherche.
Allez Antoine Balzo, vous restez avec nous, on va tourner quelques pages de notre album de famille avec vous dans un instant, juste après Aldous Harding et Lounge sur France Inter.
Everything I lives with you.
C'était la voix d'Aldous Harding.
La Terre au carré. Sur France Inter.
L'homme moderne exploite son habitat de façon agressive. Quand il migre vers le Moyen-Orient, Homo erectus disparaît. Quand il continue vers l'Europe, l'homme de Néandertal disparaît.
Pendant près de 400 000 ans, les Néandertaliens ont vécu en Europe lors de la troisième période de glaciation. Chasseurs exceptionnels, ils possédaient un cerveau plus gros que le nôtre et leur espèce a prospéré deux fois plus longtemps que la nôtre. Jusqu'à ce que Homo sapiens arrive, ils étaient les humains les plus évolués sur Terre. Puis ils ont disparu.
Extrait d'un documentaire aux origines de l'humanité. Antoine Balzo, c'est une brève histoire des origines de l'humanité, vous, que vous proposez chez Talendier. Le plus évolué, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire le plus intelligent ou pas?
Sûrement dans l'esprit des gens qui utilisent ce terme-là, ouais. C'est un peu complexe, il faudrait faire attention. Parce que il n'y a pas de notion d'évolution ou pas de gradient d'évolution finalement. Chaque espèce est adaptée à un moment donné à son environnement et à ce qu'elle a besoin de faire. Donc il n'y a pas de plus ou moins évolué. On mélange ça souvent quand on parle de l'évolution humaine avec cette idée toujours que l'humain actuel serait meilleur, supérieur à tous ceux qui ont précédé, ce qui est totalement erroné. Globalement, il y a une augmentation ou un changement de compétences au cours de l'évolution humaine, mais il y a beaucoup de facteurs et en plus sont des aspects qui sont partagés avec d'autres espèces humaines. Donc à un moment donné, il n'y en a pas un plus évolué qu'un autre.
C'est pour ça que je voulais vous entendre là-dessus. Vous qui dirigez un projet de recherche qui a pour ambition de ressusciter le cerveau d'Homo erectus et des Néandertaliens, alors pas au sens propre évidemment. Mais le cerveau, c'est vraiment votre centre d'intérêt aussi, hein, autour de nos ancêtres. Qu'est-ce que vous étudiez, qu'est-ce que vous cherchez à savoir et c'est quoi ce projet alors?
L'idée, c'est d'essayer de révéler ce qu'on n'a plus, puisqu'évidemment, on ne retrouve pas de cerveau fossile. Et on a une image de ça en étudiant la surface interne du crâne. Le cerveau marque l'intérieur de notre crâne, il y a des empreintes, en fait. Exactement, ouais. Comme des empreintes digitales finalement, et des choses extrêmement détaillées. On arrive à voir des veines qui passent, des grands sinus, tout un système comme ça de circulation sanguine, et puis les limites des lobes, différentes parties du cerveau. La difficulté aujourd'hui quand même, c'est de mettre en lien cette empreinte, cette marque, avec un vrai cerveau. Évidemment, on n'a pas un cerveau néandertalien. Donc là, mon projet, l'objectif, c'est déjà d'avoir une meilleure connaissance de la relation qui est entre la forme du cerveau et celle du crâne, en faisant de l'imagerie sur des volontaires aujourd'hui.
Humains, hein, donc
tout à fait, des collègues, des amis, des gens que je croise qui viennent participer à nos travaux.
Des auditeurs, peut-être, s'ils peuvent encore...
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Étendons encore les échantillons. En fait, l'idée, c'est d'à la fois imager la forme du cerveau, la forme du crâne, avoir tout l'ensemble de la tête, finalement, en imagerie, et puis aussi analyser la latéralité des comportements pour avoir tout un détail de manipulation, de compréhension des sons, de vision, etc. Sur le même échantillon. Et c'est ça qui est intéressant parce que d'habitude, on connaît la latéralité de la main, du cerveau, de la face, mais sur un échantillon séparé. Là, pour la première fois, on va tout mettre ensemble sur un échantillon un peu restreint parce qu'on n'a pas les moyens de le faire sur 5000 personnes, même si ce serait merveilleux. Et à partir de ce modèle-là, de ces informations qu'on aura, on pourra appliquer aux fossiles après.
C'est quoi la différence entre un cerveau d'Homo sapiens, donc un cerveau, donc on va dire mon cerveau, et celui d'un néandertalien, par exemple?
Alors, il y a une partie de mystère dans la raison de ces différences et cette quantification de différences. En tout cas, il y a quand même une variation de forme qui est importante. Le cerveau néandertalien ne ressemble pas au nôtre. Notre cerveau est plus haut, avec des lobes pariétaux plus développés. Certaines zones, en fait, plus grandes, alors que lui a des zones qui sont constituées un petit peu différemment. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir comparer ça et de l'étudier. Alors déjà, il faut bien l'analyser pour que ce soit bien propre et bien voir les réelles différences, pour essayer aussi de mettre en parallèle avec le fonctionnement du cerveau et notre connaissance du fonctionnement du cerveau. Évidemment, c'est difficile puisqu'on n'a pas tous les comportements fossiles, mais on en a quelques éléments. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer avec un passé plus récent. Si on regarde le cerveau des Homo sapiens d'il y a 30 000 ans, il est différent du cerveau moyen des humains d'aujourd'hui. Et pourtant, ils avaient des capacités extrêmement complexes, mais la structure du cerveau s'est transformée. Donc ça pose beaucoup de questions aussi sur le lien qu'on fait entre la forme et la fonction. Et mes travaux cherchent à étudier ça en étudiant justement toutes ces caractéristiques qu'on sait liées à notre langage, à la latéralité manuelle, qu'on pensée propre à Homo sapiens et qu'en fait qu'on retrouve d'un point de vue anatomique chez les humains et même pour certaines chez les chimpanzés, ce qui montre bien que l'asymétrie du cerveau ou certaines zones fonctionnelles du cerveau sont des choses héritées depuis très très longtemps et qui ne sont pas uniquement le propre d'Homo sapiens.
Mais si on avait une photo d'une Camille Cronier néandertalienne par exemple, elle ressemblerait à quoi par rapport à celle qu'on a aujourd'hui en face de nous là ?
De son cerveau ou de
l'ensemble
de son visage ?
Non, de son visage. De son visage, ouais.
Ah,
parce qu'il y a quand même une différence majeure dont vous parlez, hein.
Ah oui, majeure, la plus notable. En fait, il y a un ensemble de petites différences anatomiques sur la forme de la tête. La nôtre est très haute, la leur était plus allongée. Mais finalement, quand on fait la liste des caractéristiques propres à Homo sapiens, il y en a une qui est très visible, c'est le menton. On le voit très bien, on a ce petit renflement osseux sur lequel on s'appuie d'ailleurs.
Exactement comme ce que fait Camille en ce moment.
Je n'ai même pas fait exprès, mais je suis appuyée sur
c'est
mon menton.
C'est un hasard. Et typiquement, ces genres de caractéristiques intéressante d'un point de vue biologique. Si on a une mandibule avec ce relief et cette marque-là, clairement, on est certain que c'est Homo sapiens. Ouais. On ne voit pas exactement la même chose chez les autres espèces.
J'aurais pas pu m'appuyer sur mon menton si j'étais néandertalienne.
Bien sûr que si. Et en fait, ça m'amène presque à l'autre élément aussi. Arriver à comprendre la fonction de certains caractères anatomiques, c'est très compliqué.
Mais attendez, les néandertaliens en avaient un ou pas un menton?
Ils n'en avaient pas. Enfin, ils avaient une zone de la mâchoire.
Donc j'aurais pas pu m'appuyer comme ça.
Donc ça aurait été, il aurait fallu mettre le poing un peu en arrière ou glisser un peu, ça aurait été un petit peu différent et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, cette petite particularité anatomique, on essayait de comprendre pourquoi elle était là.
Bah oui,
il y a plein d'hypothèses différentes, que ça permette d'avoir une mastication plus solide, que justement notre mâchoire est plus fine que celle de ceux d'avant, donc ce serait une compensation. Ce serait utile aussi pour la séduction des hommes par rapport aux femmes. On a testé à peu près toutes les hypothèses et il n'y a rien qui fonctionne bien. Et en fait, on ne sait pas trop à quoi ça sert finalement.
Et le cerveau, il est plus gros, pareil, même taille ou pas ?
Qu'un néandertalien ? Ouais. Il est un peu plus petit qu'un néandertalien. Et structuré différemment. Oui, le nôtre.
Et Homo erectus ?
Homo erectus, un petit peu plus petit que nous et que Néandertal.
Ouais.
Ah, d'accord.
Néanmoins, enfin, sont des sujets un peu complexes. Moi, ce qui me marque aussi, c'est que si on regarde les comportements des Néandertaliens d'il y a 40 000 ans, des humains d'il y a 40 000 ans, de notre espèce ou de nous, je suis assez convaincu que malgré nos cerveaux extrêmement différents, on a le même ordre de capacité individuelle, le même ordre d'intelligence en quelque sorte. Évidemment, là, on a l'impression qu'on est super fort, on passe à la radio, des gens nous écoutent, mais individuellement, on n'est pas capable de faire ça. C'est par le cumul des informations et des connaissances qu'on en arrive à ça. Et que finalement, ce qui est une particularité d'Homo sapiens aujourd'hui, ce n'est pas biologique, je ne pense pas que ce soit intellectuel. Par contre, c'est cette capacité qu'on a eue de stocker l'information par l'écriture, par l'imprimerie, par Internet, par les disques durs, etc., qui ont permis de cumuler tout un ensemble de connaissances qui nous différencient finalement des humains du passé, parce que ce cumul
finalement
de connaissances. Oui. La transmission existait aussi, c'est vraiment le stockage, l'enregistrement et cette accessibilité à la connaissance.
Mais est-ce que ça fait pour autant de nous une espèce plus intelligente que les précédentes ?
Je ne le pense pas, mais à l'inverse, ça devrait nous rendre plus humbles. Réellement, j'imagine, je dis qu'on n'est pas plus intelligent qu'un néandertalien ou qu'un sapiens d'il y a 40 000 ans.
Alors,
par contre, c'est à nous aussi de réfléchir parce qu'il y a une contrepartie à ça. On n'a jamais eu autant de connaissances, autant accès aux connaissances, mais ça n'a jamais été aussi mal réparti. Et on ne les utilise pas parfaitement non plus, par exemple, dans notre gestion aujourd'hui des crises environnementales qu'on peut connaître. Et c'est vrai qu'au lieu de se croire intelligent parce qu'on a toutes ces capacités technologiques, on ferait mieux de se remettre en question pour mieux partager nos connaissances et mieux les utiliser pour vivre mieux tous ensemble.
Mais ça, alors justement, par rapport à la survie, pourquoi est-ce que c'est nous du coup qui avons survécu, enfin qui sommes là encore aujourd'hui et pas les Néandertaliens? Est-ce qu'il n'y a pas une forme quand même de...
Supériorité?
Ouais.
On peut le dire, non?
Ben c'est ce qu'on a longtemps cru par cette logique qu'un reste, c'est qu'il a été plus fort que celui d'avant. Il y a peut-être eu une partie de vrai, mais il y a eu aussi une partie de chance.
On sait, coup de bol, ah oui.
Ouais, coup de bol. L'évolution, c'est beaucoup ça, c'est le hasard. On sait que, en particulier, les Homo sapiens anciens qu'on retrouve en Europe ou en Asie ne sont pas les ancêtres directs des Européens ou des Asiatiques. Ils n'ont pas contribué à notre patrimoine génétique, parce qu'en fait, ils ont disparu. Il y a eu des moments de crise aussi pour Homo sapiens, comme pour Néandertal. Et finalement, c'est pas aussi parce que nous étions toujours en Afrique au moment de ces crises que nous avons pu nous réétendre à travers tout l'ancien monde, qu'Homo sapiens est toujours là aujourd'hui. Donc finalement, on vient d'Afrique, mais un certain nombre de fois, plusieurs fois d'affilée, et c'est peut-être même ce qui nous a sauvés en tant qu'espèce humaine. Les autres ont disparu, nous on a survécu parce qu'on était les derniers à avoir gardé à pied en Afrique.
Antoine Balzo, on va parler dans un instant de quelques espèces emblématiques, et puis les dernières qui ont été découvertes et qui mettent un peu le bazar d'ailleurs hein, dans ce qu'on croyait avant. Juste un mot, combien d'espèces humaines exactement est-ce qu'on a recensé à ce jour ?
Ça dépend des spécialistes, entre 3-4 pour ceux qui pensent qu'il n'y a qu'un grand groupe humain, et puis presque une trentaine pour d'autres en fonction des caractéristiques. Ouais. En réalité, on est plutôt proche du grand nombre, parce qu'en biologie, on caractérise les différences, et quand on a des vraies différences, ça nous permet de faire des groupes différents.
Donc tout le monde n'est pas totalement d'accord là-dessus. Hein.
Oui.
Ça prête encore à discussion, évidemment, au sein de la communauté. Et puis, vous dites aussi qu'il y a eu une période faste hein, pour justement toutes ces espèces qui, parfois, ont cohabité les unes avec les autres. C'est quoi? Il y a entre 100 000 et 50 000 ans, on a vraiment eu ce buisson
C'était une période faste, alors qui donnait suite aussi à un moment où il faisait très bon, où la Terre était peut-être très agréable, et puis aussi parce qu'il y avait peut-être moins de pression humaine, les populations étaient plus réduites, dispersées à travers le monde, mais étaient différentes avec des espèces humaines différentes à travers le monde.
Allez, on y revient avec vous dans un instant et vous répondrez au message Antoine Balzo, une brève histoire des origines de l'humanité.
France Inter. La Terre au carré.
14h32, on passe au vert, Camille Cronier.
Et comme vous peut-être, je fais connaissance depuis vendredi avec les deux ministres qui vont porter l'ambition d'Emmanuel Macron.
Nos vies seront écologiques, ou ne seront pas.
Formule désormais presque aussi célèbre que son Make Our Planet Great Again. Deux nouvelles ministres donc pour l'incarner, en plus vous le savez de la première ministre Elisabeth Borne. Amélie de Montchalin à la transition écologique et à la cohésion des territoires. Et Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique, qui se présente et se justifie aussi sur leur engagement écologique peu affiché jusque-là.
Je crois que tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo, parce que le sujet, c'est de sauver la planète.
Agnès Pannier-Runacher enfonce une porte ouverte ce matin sur BFM, en plus de défendre son profil technocratique.
J'assume d'être une technicienne, parce que ce sont des sujets compliqués et qui ne peuvent être confiés à des gens qui sont que dans le slogan.
Une minute plus tard...
Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions.
Bon, ça fait un petit peu slogan, quand même. Au même moment, sur France Inter, Amélie de Montchalin ne choisissait pas forcément la meilleure image pour décrire son engagement écologique.
J'ai le feu.
J'ai le feu, cela dit, c'est raccord avec ce qui se passe en ce moment en Sibérie, par exemple. Le feu, donc, est un vrai intérêt pour ces questions.
J'ai des convictions très fortes sur le changement climatique et sur la biodiversité, parce que d'abord, je fais partie d'une génération qui est celle qui a vu déjà tous ces changements devenir concrets. J'ai 36 ans. Le climat, il est évidemment dans tous les débats. Je suis aussi la mère de 3 jeunes enfants. Mais surtout, je suis une femme d'efficacité.
Et ça, la femme d'efficacité, c'est le credo de la nouvelle ministre de la Transition écologique. Elle le répète depuis la passation vendredi.
Je suis une femme d'engagement et de conviction, de concret, d'efficacité. Les Français, notamment les plus jeunes, peuvent compter sur moi pour aller chercher ces résultats.
Idem côté Agnès Pannier-Runacher sur sa mission.
L'action guidera la mienne. Il n'y a donc pas une minute à perdre. Dans les 5 années qui viennent, nous devrons encore accélérer.
Alors après les profils, donc on arrive à la méthode, les objectifs annoncés comme ça la semaine dernière par la première ministre Elisabeth Borne, je vous le rappelle.
Il faut agir plus vite et plus fort.
Son bras droit et son bras gauche sont évidemment sur la même ligne.
Sur la transition écologique, nous devons aller plus vite, plus fort, plus loin. Nous devons agir maintenant, tant qu'il est encore temps.
Moi, je ferai en sorte que cette transition énergétique débouche très rapidement sur des actes concrets.
Et encore heureux, a-t-on envie de dire, hein, en sachant qu'à chaque fois et depuis des années, ils le disent, elles le disent tous et toutes, comme Elisabeth Borne, juste après sa nomination comme ministre de l'écologie en 2020, je vous en parlais la semaine dernière.
Il faut passer à l'action pour avoir des actes concrets qui permettent de répondre à cette urgence écologique.
Bon, concrètement, donc, plusieurs exemples cités par les ministres, comme la rénovation de 700 000 logements, ça c'est tout en haut dans leur fiche, hein, ils nous le sortent à chaque fois, en oubliant de mentionner, cela dit, le rapport de la Cour des comptes du mois de mars dernier, qui faisait état de 2500 logements sur les 700 000 sortis véritablement du statut de passoire thermique. Agnès Pannier-Runacher parlait ce matin, elle, des fameux petits gestes.
Parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie, et puis on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe, et on aura consommé beaucoup plus d'énergie.
Pendant qu'Amélie de Montchalin parlait mobilité.
Vous avez vu, on a fait une proposition, par exemple, pour qu'on donne accès à un leasing d'une voiture électrique à moins de 100 euros par mois aux Français les plus modestes. C'est à la fois bon pour le portefeuille, c'est bon pour la planète.
On n'est donc pas encore tout à fait dans le structurel, comme on dit, hein, mais la ministre de la Transition écologique envoyait un message clair à ceux qui prônent justement un changement de système pour que notre planète reste vivable.
Pas de sortir de tous les modèles économiques et d'imaginer la grande révolution.
Pas de radicalité, dans la méthode, elle le dit. C'est aussi pour ça qu'elle assume son vote contre l'interdiction du glyphosate il y a 4 ans.
Oui, en tant que députée, j'avais fait un choix, tout à fait assumé, que nous ne pouvons pas faire cavalier seul pour n'importe quel domaine que ce soit. Sinon, c'est notre économie, ce sont nos producteurs, ce sont nos agriculteurs que nous laissons dans la panade.
Autre sujet clivant, le nucléaire. Agnès Pannier-Runacher a été très claire, elle aussi, en prenant ses fonctions.
Le nucléaire, c'est une chance pour notre pays. C'est une chance pour l'Europe. Et tous ceux qui disent le contraire sont des apprentis sorciers qui mettent en danger notre futur.
Les antinucléaires apprécieront donc. Voilà les premiers traits du tableau hein, qui s'esquissent depuis vendredi, avec un dernier élément, une petite faute de la ministre de la Transition énergétique, hier lors d'un déplacement.
Ce combat pour réduire nos gaz à émissions de serre.
Alors, gaz à émissions de serre, vous allez me dire, je suis vache, ça arrive hein, que la langue fourche. Mais écoutez, ce matin, sur BFM.
Nous devons drastiquement limiter nos gaz à émissions de serre.
Alors, il s'agit Agnès Pannier-Runacher, des émissions de gaz à effet de serre. Je veux bien qu'on veuille être ministre des actes et non des paroles, mais c'est bien de savoir quand même formuler ce qui menace aujourd'hui le plus notre vie sur Terre.
Et c'était Camille Passauvert à réécouter sur franceinter.fr.
Antoine Balzo, en tant que chercheur, et on parle évidemment de la paléoanthropologie reliée évidemment à la situation aujourd'hui sur la planète. Comment vous voyez la succession comme ça de tous ces ministres qui disent tous on va agir et on va y arriver et il y aura des résultats?
En tant que chercheur, c'est compliqué de répondre à cette question-là.
Et en tant que citoyen, alors
En tant que citoyen...
Ça sera peut-être plus facile.
Non, enfin, en tant que citoyen, j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi une prise de conscience plus globale qui est importante, qu'en effet... les actions politiques sont importantes, mais qu'on n'a peut-être pas non plus forcément bien tout saisi. Et en particulier, étudier le passé nous permet de mettre en perspective les choses. Alors, je suis pas le premier à le dire, et les paléoclimatologues le disent, mais quand on regarde ce qui se passe entre une période glaciaire et une période chaude d'une manière naturelle, ça prend 30 000 ans, ça représente, sur l'échelle de la planète, une variation de température moyenne que de 5 degrés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de limiter le réchauffement climatique à 2 ou 3 degrés, ce qui ferait presque 3 ou 4 degrés sur 150 ou 200 ans, on est en train de dire que on est en train de réfléchir à comment limiter notre réchauffement climatique en 2 siècles, à ce qui se passe quasiment de manière naturelle en 15 000 ans dans les variations normales de changement climatique. Ce qui fait que ça, cette information-là, elle nous montre bien déjà qu'il faut arrêter de dire que l'homme n'a pas d'impact. C'est une certitude, c'est démontré à 100%. Donc ne discutons plus ça et prenons ça en tête, ayons ça en tête.
Mais il faut qu'on agisse
tous.
Est-ce qu'on peut agir ou pas alors du coup ?
Ça veut dire que ce qui va advenir là dans les 200 ans est totalement imprévisible, simplement parce qu'il va se passer en 200 ans un changement à l'échelle de la planète qui correspond à ce qui se passe naturellement en 15 000 ans, normalement. Donc On peut pas prédire ce qui va se passer. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va être drastique. Regarder des images de ce qu'on imagine de l'Europe en plein maximum glaciaire, c'est pas du tout l'environnement qu'on a aujourd'hui. Bah, imaginez que le changement, ça va être la moitié de ce qu'il y a entre aujourd'hui et cette période-là. C'est forcément massif, c'est extrêmement grand. Et on oublie cette échelle-là. Et on est là à discuter, en effet, des petits gestes qu'on peut faire nous, ou à critiquer la politique que peut avoir le gouvernement. Mais dans l'absolu, on n'a pas tous conscience de l'ampleur et de la gravité de la situation. Il faut le répéter, il faut le rappeler et se rendre compte que, en effet, il faut agir, mais tous.
Ben justement, face à l'ampleur de la situation, est-ce qu'on peut pas se dire aussi que les mesures qui sont prises aujourd'hui par nos politiques vont plutôt mettre 30 000 ans à avoir des effets plutôt que...
Oui, mais comme les changements individuels des gens vont mettre 2 à 3 générations pour avoir un effet. On a entendu tout à l'heure quelqu'un qui a changé sa manière de vie et qui aujourd'hui fait ses propres fraises. On devrait tous ambitionner de produire ses propres fraises, d'arrêter d'acheter des fraises à n'importe quelle saison, des tomates à quelle saison, à n'importe saison, changer notre manière de se déplacer, réfléchir à tout ça et tous agir. Et si tout le monde agit, il est sûr que la pression sur les ministres qui se succèdent sera d'un tout ordre et les obligera à agir aussi beaucoup plus massivement.
Bon, ben, spéciale dédicace pour Sandrine, notre auditrice qui nous parlait de ses fraises tout à l'heure. Allez, Antoine Balzo, vous restez avec nous, vous êtes l'invité de la Terre au Carré.
Le téléphone sonne et je réponds plus de moi. Même quand je savonne, le démon pue le moi. Ok, je vole comme la mort, je reste un peu sur le toit. C'est quoi ta botte, t'as l'air tellement sûr de toi. Putain, tu lis dans les pensées, je dis même pas tous les mots. T'as j'ai tendance à penser que c'est faux. Mais là, je commence à trembler, je pourrais même trouver beau tes menaces de merde, tes textos. On parle, mais ça dit pas grand chose. Je te dis, je suis sur tes côtes, je parle pas grillade dans l'eau. Dans ma piscine, je renverse ma sangria dans l'eau. Je peux te faire tourner en l'air comme un grand pizzaiolo. Je peux dire n'importe quoi, elle rigole toujours à mes blagues. Et le soir, elle s'endort contre moi. Enfin, je dis n'importe quoi, tant qu'elle rigole à mes blagues. Et que le soir, elle s'endort contre moi. Le jour se lève, mais pas l'obscur. Ils comprennent pas plus que moi, mais ils veulent m'expliquer. Laisse tomber, c'est de la folie, tu vas pas y arriver. Pas des balles inversées, les balles dans le dos. Non, c'était Galère hier qui trouve que t'es trop devant. Gros, tu t'inventes des adversaires, mais regarde dans ton camp. Cherche pas Cerbère ailleurs que dedans. Non, je reste dans ma tanière, je m'inquiète tout le temps. Je remballe ta carrière et tu me fous le camp. J'ai trop de punchline, je sais qu'on m'écoute. Avec dans la bouche comme un coup de sang. Le jour se lève mais pas l'obscur. Ils comprennent pas plus que moi, mais ils veulent m'expliquer. Laisse tomber, c'est de la folie, tu vas pas y arriver. Laisse tomber jamais.
Et c'était Vald sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Depuis la disparition de Néandertal, nous sommes censés être les seuls représentants du genre Homo sur Terre. De plus, pour les paléontologues, le cerveau a grossi au fil de l'évolution. La découverte de l'homme de Flores vient donc sérieusement ébranler leurs certitudes. Petite taille, petit cerveau, vivant sur une île perdue d'Indonésie il y a 17 000 ans et peut-être plus récemment encore. Pour en savoir plus, direction l'île de Flores.
Je me souviens de ce que me disait ma grand-mère. Elle parlait d'un homme qui venait de la forêt.
On l'appelait Mpupadjou et il était couvert de poils. Il mangeait de la viande crue. Ensuite, il est devenu comme nous, il a perdu ses poils parce qu'il a commencé à manger de la viande cuite. Voilà, ça c'est l'histoire que me racontait ma grand-mère.
Voilà, extrait du Blob en 2018, Antoine Balzo, paléo-anthropologue, pour nous parler justement de nos ancêtres. Et il y a justement une question sur les poils,
Camille. Oui, Gilles nous demande sur franceinter.fr, quand a commencé la perte de pilosité chez les humains? Est-ce que du coup, c'est quand on a effectivement commencé à manger de la viande cuite?
Visiblement, c'est ce que disait la grand-mère du monsieur.
Ouais.
Non. Alors évidemment, on n'a pas de preuve définitive de la disparition des poils, de la baisse de cette pilosité. Dans les faits, les poils n'ont pas disparu. On a tous, toujours autant, c'est juste qu'ils sont devenus beaucoup plus petits. On a tous ces petites cellules avec les petits poils qui nous permettent d'ailleurs de bien transpirer. Mais
ça prend moins de place,
vraiment
quoi.
Réduit. Ça, la comparaison entre un chimpanzé et moi est assez flagrante sur ça.
Mais
ils en ont autant que moi, mais les miens sont beaucoup plus petits.
Au niveau il n'y a pas du tout de repère en termes de date
Alors, on a des propositions sur ça. Évidemment, on est prudent parce qu'on n'a pas trouvé de poils fossiles, de peau fossile d'hommes préhistoriques pour être certain de la disparition.
Ouais.
L'idée, il y a plein d'hypothèses. On pourrait faire beaucoup de temps sur ça. Une hypothèse qui est assez intéressante, assez crédible, c'est d'imaginer que ça s'est fait au changement de stature de l'humanité, quand on est passé des formes d'australopithèques, qui étaient des humains un peu plus petits que nous, enfin certains faisaient quand même 1m60, imaginez un australopithèque d'1m60, ça devait être impressionnant, mais ils vivaient dans des environnements un petit peu plus fermés, plus spécifiques, ils avaient des bras plus longs, des jambes plus courtes, ils se déplaçaient sur des distances plus faibles, et puis ensuite il y a eu Homo erectus, c'est le premier humain avec un corps comme le nôtre, avec des jambes plus grandes, des bras plus courts, et cet humain a aussi eu des déplacements beaucoup plus grands, on le retrouve presque instantanément depuis l'Afrique du Sud jusqu'au fin fond de l'Asie. Donc un déplacement extrêmement important. Donc il n'est pas impossible que ce soit à ce moment-là, que ces déplacements plus longs aient eu aussi un changement sur la physiologie, la manière de fonctionner du corps, et que par exemple pour se déplacer longtemps, c'est assez utile, surtout si on veut courir, de pouvoir transpirer plus facilement, et pour ça, il vaut mieux avoir des petits poils qu'une grosse couverture pileuse.
Et justement, l'homme de Flores, là, dont on parlait dans cet extrait, pourquoi finalement ça a un petit peu bouleversé les connaissances? Alors, en raison de sa taille
Sacrément bouleversé les connaissances, ça a chamboulé des choses, ça a crispé certains scientifiques aussi, parce que c'était une forme humaine inattendue, dans le sens où il y avait cette idée générale de l'augmentation de la stature humaine au cours du temps, d'un cerveau toujours plus gros et que le cerveau permettait les capacités. Là, on se retrouve avec un humain qui venait d'une île qui avait toujours été une île. Donc ça impliquait d'avoir été capable d'aller sur l'île. Alors on ne sait pas comment ils l'ont fait. Mmh. Certains proposent qu'un ouragan aurait pu les transporter ou qu'il l'avait fait à d'autres stégodons. Je propose à ces gens d'essayer pour voir si c'est faisable. Ils ont peut-être fait des petits radeaux pour traverser. En tout cas, ils se sont retrouvés sur l'île. Et avec le temps, on imagine que leur ancêtre était plutôt des Homo erectus, l'espèce humaine qui était sur cette partie-là du monde auparavant, et qui sont devenus petits parce qu'ils sont adaptés à leur environnement, que leur stature est devenue plus petite, que leur cerveau est devenu plus petit. C'est un mécanisme qu'on connaît sur les îles pour les autres animaux, mais c'est vrai qu'appliquer ça à l'humain, ça a été quelque chose dur à accepter pour certains, parce que cette idée que l'humain pouvait être à ce point lié à son environnement, même à des périodes récentes, ça n'allait pas de soi.
À quelle période il vivait ?
Les fossiles qu'on a trouvés au début sont datés autour de 100 000, peut-être un petit peu moins. Et surtout, on en a trouvé qui ont 800 000 ans. Donc, on a une existence de cette espèce pendant très, très longtemps.
Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui caractérise un humain, finalement, Antoine Balzo?
C'est une question très complexe, parce qu'on peut donner plein de réponses différentes. Ça dépend quel terme on veut mettre par humain. Le plus simple, ce qui fonctionne bien, c'est ce qui est lié à la bipédie. Notre corps est adapté à la bipédie, nous Homo sapiens, mais c'est vrai pour plein d'autres espèces, avec une transformation du corps. Le premier qu'on connaisse, c'est Toumaï. Son crâne est différent de celui des autres grands singes africains d'aujourd'hui,
par
exemple.
Donc c'est le plus ancien, 7 millions d'années.
C'est le plus ancien qu'on connaisse
hein.
Aujourd'hui.
Ouais.
On en trouvera peut-être d'autres de plus anciens. Ouais. Du buisson de l'humanité.
Ouais.
Et donc ça, c'est une définition de l'humanité, cette bipédie. Après, il y a eu d'autres caractéristiques utilisées. Une des autres, ça a été l'apparition des outils. On a considéré qu'Homo habilis était le premier fabricant d'outils parce qu'on avait des restes humains avec des outils. Aujourd'hui, on sait que des outils ont été fabriqués aussi par des australopithèques. Et en fait, toutes ces considérations comportementales, l'apparition des outils, du feu, d'outils un peu plus complexes. C'est beaucoup plus dur comme signe parce que c'est compliqué de l'associer à une seule espèce humaine. Parfois, c'est partagé par plusieurs espèces. Donc, dans ce cas-là, c'est compliqué de faire un seul groupe et de dire « voilà un vrai signe d'humanité ». Donc, la bipédie, ça marche bien. Le reste, il y a toujours débat. Et puis, pour Homo sapiens, je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, il n'y a pas grand-chose qui nous caractérise, un menton ou la capacité de stockage de l'information.
Et des débats, il y en a dans votre discipline au sujet de Toumaï, par exemple, donc le plus ancien humain connu à ce jour, 7 millions d'années, et autour de son fémur, polémique en 2018.
Voici l'unique cliché du fémur de Toumaï. Une image entourée de mystères. Est-ce le fémur d'un grand singe ou celui d'un bipède ? En 2001, au Tchad, quatre hommes mettent au jour le crâne de Toumaï, considéré comme le premier de la lignée humaine. 3 ans plus tard, à l'université de Poitiers, une étudiante, Aude Bergeret, est intriguée par un ossement non identifié ramené du Tchad. Un collègue lui dit en rigolant
« Si ça se trouve, tu as trouvé le fémur de Toumaï ». Et là, j'ai eu un sourire et j'ai regardé Roberto. Et là, j'ai compris que, en fait, la blague n'en était peut-être pas une.
La blague n'en est effectivement pas une et crée la polémique. Le crâne laissait penser que Toumaï était bipède, mais ce fémur, enfoui à quelques centimètres de lui, semble prouver que le spécimen se déplaçait à 4 pattes.
Voilà, Toumaï est co-découvert par Michel Brunet de l'Université de Poitiers. Il était même venu à l'époque dans la tête au carré avec le fameux fémur de la discorde. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Antoine Balzo? Parce que cette histoire de bipédie ou pas, ça peut complètement changer l'histoire des origines de l'humanité que vous nous racontez là dans ce livre.
Tout à fait, ça peut totalement chambouler le début, le point de départ de cette histoire.
Les choses ne sont pas tranchées clairement aujourd'hui encore?
On est quand même clairement du côté de la bipédie. On peut toujours trouver plus ancien. En fait, ouais. En ce qui concerne cette histoire-là, ce fémur de Toumaï ou Toumaï en général, il faut relativiser et contextualiser. Alors, il n'y a pas un fémur de Toumaï. A priori, il y a plusieurs ossements, des jambes, des bras qui ont été trouvés dans les mêmes zones, mais qui n'ont pas été encore complètement décrites. Il y a un préprint, un article scientifique qui a été proposé, qui est accessible en ligne, que tout le monde peut regarder, qui propose des descriptions de ces ossements-là, mais qui n'est pas encore définitivement publié. Donc on ne peut pas trop discuter de la valeur de ces résultats pour le moment. Le crâne en soi, la discussion, elle, est plutôt close. Il y a une étude scientifique robuste.
C'est un crâne du bipède.
J'ai eu la chance de voir et la forme du cerveau, de l'endocrâne et la base de ce crâne. Les caractéristiques anatomiques sont claires, ça correspond tout à fait à ce qu'on attend pour un crâne posé tout en haut de la colonne vertébrale, donc lié à la bipédie. Ce qui est certain aussi, c'est que l'adaptation à la bipédie est complexe. Ça ne se fait pas une seule fois et ce n'est pas quelque chose de linéaire. On n'est pas parti d'un primate qui s'est un peu redressé pour aller de plus en plus bipède jusqu'à Homo sapiens. Non, il y a des adaptations différentes en fonction des espèces. Si on compare les fémurs des différentes espèces d'Australopithèque ou d'Homo, on a des caractéristiques différentes. Le fémur de Toumaï, c'était attendu qu'il y ait des choses particulières. La difficulté aussi, c'est de comparer. Si on compare un fémur de Toumaï qui est le plus vieux de très loin avec des humains d'aujourd'hui ou des chimpanzés, être capable de dire juste à partir de ça quel est son mode locomoteur, c'est complexe. Pour le moment, il n'y a pas de vraie conclusion sur ces ossements-là. Ils sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous permettront de documenter ce début de l'humanité, ces moments où les humains étaient adaptés à marcher debout, mais faisaient aussi d'autres choses. Pour le crâne, il n'y a pas de discussion jusqu'à preuve du contraire, c'est bien un crâne d'hominine, d'humain, parce qu'il était bipède.
On vient de recevoir cette question sur franceinter.fr. Est-ce qu'on connaît l'ancêtre commun de l'Homo sapiens, c'est Néandertal ?
Alors, non, pas encore. Simplement aussi parce que la notion d'ancêtre commun, c'est quelque chose de théorique. C'est quelque chose qu'on utilise par rapport à nos constructions, à la manière dont on travaille. On a des groupes qu'on arrive à identifier d'un point de vue biologique ou génétique avec des différences, et on essaye de savoir à quel moment se trouvait leur ancêtre. Alors on va pouvoir estimer, en fonction des différences biologiques ou génétiques, et en faisant des estimations de transformation au cours du temps, à quelle époque ça pouvait être. Ça fonctionne, on peut dire, l'ancêtre commun des Néandertaliens et d'Homo sapiens, c'était il y a peut-être autour de 500 000 ans, c'est à peu près les âges qu'on propose. L'ancêtre commun entre Homo sapiens et les chimpanzés, c'était il y a 10 millions d'années. La limite de ça, c'est que si on trouve un fossile à cette époque-là, l'ancêtre commun d'un de ces groupes-là, on ne peut pas le reconnaître d'un point de vue biologique parce qu'il a ni les caractères qui permettent de définir un groupe, ni ceux de l'autre, puisque par essence, il n'est pas l'un des deux autres. Donc, On ne peut pas vraiment l'identifier. On cherche comme ça des formes ancestrales, mais on est toujours dans un contexte où un réel ancêtre commun, on ne peut pas le reconnaître. On connaît que les petites branches parallèles. Et finalement, en paléontologie, ce qu'on fait, c'est ça, c'est trouver des branches parallèles, documenter le grand buisson, en n'ayant pas de certitude qu'on trouvera vraiment des ancêtres communs, parce qu'ils n'existent que dans nos constructions théoriques.
Antoine Balzon, on se retrouve dans un instant, et après la fraise de Sandrine dans le répondeur, voici la framboise de Bobby Lapointe.
Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes, qu'elle avanie, avanie et framboise. Sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas. Est-ce plus loin que Pézenas? Je ne sais pas. Et tout en étant française, l'était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle avanie, avanie et framboise. Sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ah ah ah. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins à poire. Y a un institut d'Angers qui opère sans danger, des plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas. Qu'elle avanie, avanie et framboise, sont les mamelles du destin. Davantage, davantage, avantage, davantage, lui dis-je quand elle revint avec ses seins angevins, 2 x 10. Permets donc que je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après. Je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, avanie et mamelle sont les framboises du destin.
France Inter, la terre au carré.
Antoine Balzon, encore pendant quelques minutes dans la Terre au Carré, autour de sa brève histoire des origines de l'humanité chez Talendier. Et Madame Cronier, des questions des auditeurs.
Oui, il y a une question qui revient souvent, Antoine Balzon. Julien nous demande sur franceinter.fr, est-ce qu'on peut penser l'arrivée d'une nouvelle espèce d'humain? Ou est-il possible que l'adaptation actuelle puisse donner une nouvelle espèce?
Eh bien, on peut toujours imaginer des choses. Il faut tout de même réfléchir à ce qu'est une notion d'espèce. Alors, espèce, déjà, c'est pas quelque chose qui existe dans la nature. C'est quelque chose qu'on a défini, nous, scientifiques humains, pour classer la nature. Donc, il y a une nuance aussi, ce qui complique, d'ailleurs, quand on travaille sur le passé, pour bien comprendre les différents groupes humains. En ce qui concerne l'avenir, les humains sont tellement nombreux, dispersés partout à travers le monde, qu'il semble assez compliqué d'imaginer qu'une nouvelle forme pourra apparaître. En réalité, ce qui favorise souvent l'apparition d'espèces, c'est l'isolation d'un groupe.
Ben justement, tiens, c'est des invités qui nous en ont parlé. Si on envoie des humains sur Mars, par exemple, qui se développent pendant des centaines de milliers d'années, est-ce qu'on pourrait pas un jour avoir deux espèces différentes dans l'univers?
Eh bien, tentons l'expérience, on en reparle dans 300 000 ans, si vous voulez. Non, c'est ça la limite, en fait, la complexité.
Mais sur Terre, ça paraît impossible.
Sur Terre, c'est difficile d'imaginer qu'un groupe humain va se retrouver isolé suffisamment longtemps, n'avoir qu'une partie du patrimoine, et se transformer. Et en fait, l'idée sous-jacente, souvent, c'est de se dire, puisque le climat change, nous allons nous adapter, nous transformer, ça va nous permettre de vivre dans ces conditions-là. Ça, c'est erroné. L'adaptation, ça ne se fonctionne pas comme ça. Quand quelque chose permet d'avoir un avantage, c'est que c'était déjà présent dans le patrimoine génétique. C'est pas du transformisme. On va pas se retrouver avec des palmes parce qu'il y a plus d'eau. Non, le corps ne peut pas changer simplement comme ça. Donc, on ne va pas avoir de réaction magique qui va nous permettre de compenser les changements climatiques dans les 50 ans qui viennent pour former une nouvelle humanité.
Donc, nous sommes les seuls aujourd'hui, alors qu'à une époque, on le disait, il y a 100 000 ans, plusieurs espèces cohabitaient ensemble. Mais est-ce que finalement, c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui? On parle toujours de biodiversité, de l'importance de la diversité dans le vivant. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour notre espèce qu'elle soit la seule aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un goulot d'étranglement? Et finalement, c'est pas aussi une façon d'aller vers une fin inéluctable?
Ah, de toute façon, dans l'histoire de la vie, toutes les espèces finissent par disparaître. Il serait étonnant que l'humanité, au bout d'un moment, n'arrive pas à la même fin. En ce qui concerne la diversité, là on est dans un contexte extrêmement particulier, on a tellement anthropisé notre monde, on s'est tellement développé partout, qu'on est quand même multiples, divers, présents partout, on a des capacités technologiques de survie qui quand même devraient nous préserver un long moment. Ouais.
Merci pour cette note d'espoir, Antoine Balzo, pour terminer cette discussion. Brève histoire des origines de l'humanité, ça paraît chez Talendier. Merci d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup.